Bienvenue à Objectif numérique, quatrième épisode intitulé « Bidouillage », puisqu'aujourd'hui, on va vous parler de sites qui vous permettent de bricoler ou de bidouiller des objectifs ou des accessoires pour votre appareil photo. Nous allons aussi vous expliquer différents termes en photographie et faire la distinction entre les différents types d'objectifs. On va commencer par des remerciements. Il y a Nicolas Crevier et Danny Sinotte qui nous ont répondu sur la question de la luminosité du plein capteur au dernier épisode. Et mon petit doigt m'a dit qu'on va probablement les avoir sur l'émission dans un avenir rapproché. Et puis, j'aimerais remercier en même temps les autres qui nous ont posé des questions, notamment François Lemire, à qui je vais répondre en cours d'émission. Il a posé une question très pertinente qui portait sur la différence entre un zoom et les millimètres affichés sur un objectif. Donc, on va faire la distinction de ça en cours d'épisode. Et puis, justement, on a un épisode très chargé en termes de contenu. Êtes-vous prêts, messieurs?
Oh oui!
Bien sûr!
Bien sûr!
Voilà, alors je suis avec mes deux comparses habituels, Christian et François. Bonjour!
Salut!
Salut!
Et puis, on a un invité, Rémi Saint-Onge. Bienvenue, Rémi.
Ben merci.
Au fait, c'est ça, c'est quoi ton background côté photo? Ça fait combien de temps que tu fais de la photo?
Côté photo, ça doit faire environ, je dirais, 4 ans que je fais de la photo. J'ai un parcours un petit peu étrange. Par contre, j'ai commencé à faire de la photo suite à des cours de physique optique. Dans le fond, qu'on calculait les profondeurs de champ sans même savoir que ça avait un lien avec la photographie. Et puis, j'ai commencé à faire de la photo. Je me suis dit, tiens, ça devrait être le fun. Je vais essayer ça. Je me suis acheté une caméra, puis j'ai trippé bien raide parce que, ben ça, j'étais un spécialiste en électronique en même temps, fait que je comprends vraiment intimement comment que ça fonctionne en dedans de la caméra. Puis justement, là, tout ça ensemble fait que ça a pris 2 minutes à apprendre à servir d'une caméra.
Parfait. Cool. Puis, t'aimes beaucoup... bidouiller avec...
Ben oui, ben justement, c'est
on
ça.
On parlait de hacking tantôt, mais le vrai terme, c'est bidouilleur, bidouiller, qu'est-ce que vous voulez. On va s'habituer.
Non, ça va être hacking. Non, je refuse.
Donc, ben c'est ça, j'ai vu que c'est ça, t'as apporté un petit...
Ben oui, je vais parler un peu de photographie haute vitesse. J'ai amené un petit circuit électronique là, à base d'un Arduino dans le fond, puis d'un optocoupleur qui déclenche les flashs pour faire de la photographie haute vitesse. C'est-à-dire, dans le fond, des photos pile au bon moment, là, mais à tout coup, qui marchent tout le temps. Je vais parler aussi de macro-photographie à objectif inversé. Et puis, c'est ça. Donc, je vais en parler tout à l'heure.
Parfait, intéressant. Et puis, toi, Christian, tu vas nous parler de quoi dans cet épisode?
Je vais vous parler de deux nouvelles sorties, la Canon T4i. La Nikon 3200, puis également quelques petites nouvelles, là, entre autres par rapport à un nouveau micro-logiciel pour la Canon 17D.
Autrement dit, firmware en anglais.
En plein ça. Je m'en suis rappelé du terme, à part ça, oui, j'ai même bien. Pas eu besoin de le chercher.
Excellent. François, toi, de ton côté?
Moi, je vais m'adresser un petit peu plus au bidouilleur. Le mot du jour, bidouilleur.
Le buzzword.
Oui, ceux qui ont envie de un petit peu comme Rémi fait à tous les jours, ben il y en a sûrement qui ont envie de un petit peu bidouiller avec leur appareil. Il y a des sites web, évidemment, pour ça. C'est des sites qui viennent t'aider à trafiquer un peu tous les objets que tu as autour de toi dans la vie qui sont électroniques, mais ils ont des sections photographie. Alors, je vous parle de 2 sites en particulier.
Parfait, excellent. Et puis, moi, de mon côté, je vais démystifier quelques termes qu'on utilise depuis le début de la série du podcast, de la balado.
Ouais.
Puis aussi, je vais en profiter pour répondre à notre auditeur François Lemire là, sur sa question. Donc, on va y aller tout de suite avec les définitions de termes. Ça fait quelques épisodes qu'on lance certains termes plus ou moins techniques ou de jargon. Là. Et puis il y a des auditeurs qui nous ont fait la remarque que c'était pas nécessairement clair aux oreilles d'un néophyte. Donc on va expliquer quelques termes qui reviennent souvent pour vous aider à mieux comprendre quand on va les utiliser à nouveau. Là. On va commencer avec le terme DSLR qui signifie Digital Single Lens Reflex. On l'appelle aussi simplement réflexe. C'est un appareil qui possède un miroir à l'intérieur qui bascule lorsqu'on prend la photo. C'est pas nécessairement tous les appareils dont on peut changer l'objectif qui sont des appareils DSLR nécessairement. C'est important de faire la distinction. Par contre, ces appareils-là, normalement, on peut ajouter plus facilement des filtres, on peut mettre un flash, puis ils vont avoir une généralement, il va y avoir une plus grande flexibilité au niveau des réglages par rapport à un appareil compact. Mais encore là, ça dépend des modèles, mais je parle règle générale. Ensuite, le terme capteur qu'on a utilisé souvent, ou sensor en anglais, il y a deux types de capteurs, les capteurs CCD ou CMOS, C-M-O-S. Donc, CMOS, l'avantage de ce type de capteur-là, c'est que ça consomme moins d'énergie, ça consomme moins de batterie, et ça offre une meilleure vitesse de lecture, ce qui est pratique pour la vidéo. Donc, les appareils Canon sont équipés des capteurs CMOS, si je ne m'abuse. Donc, c'est ça, ça résiste mieux aussi à l'éblouissement, les hautes lumières. Donc, il y a une meilleure plage dynamique des lumières et des couleurs. Ensuite, le capteur CCD va donner moins de bruit, donc il va être meilleur pour les photographies en faible éclairage parce que la surface qui capture les photons de lumière est plus grande normalement sur le capteur.
Okay. Donc,
c'est un des avantages. J'en ai appris aussi en faisant mes recherches.
Ouais.
Parce que c'est rare que, normalement, quand on fait de la photographie, ben, en fait, ça dépend de nos intérêts, mais il y a beaucoup de photographes amateurs qui ne vont pas s'intéresser nécessairement à la taille des photosites sur le capteur ou les trucs qui vont capter les photons, etc. Ça tombe dans le technique et c'est les gens, justement, qui ont un intérêt plus technique qui vont faire des recherches à ce niveau-là.
Le capteur, en fait, c'est ce qui remplace... c'est la surface qui enregistre la lumière.
Oui, qui remplace la pellicule.
Exactement.
Oui.
Donc, tout ce qui converge en lumière à travers la lentille s'en va sur le capteur.
Exactement.
Puis dans le fond, une bonne manière de différencier un SLR ou un DSLR, dans le fond, la différence, un SLR, c'est ce qu'on appelait dans le temps qui étaient les appareils argentiques, qui avaient une mécanique de 35 mm avec justement le miroir qui lève, avec le pentaprisme, avec toute la mécanique d'un 35 mm. Bien, un DSLR, c'est exactement la même chose, mais on remplace le film par justement un capteur. Et puis, c'est pour ça le DSLR, dans le fond, c'est un digital
Pour l'aspect numérique, finalement. Puis d'ailleurs, c'est ça, c'est la taille du capteur qui va déterminer le fameux crop factor, le coefficient ou le facteur de rognage dont on parlait au dernier épisode. Donc, plus le capteur est petit, plus la focale qui est annoncée va être multipliée par un gros facteur. Donc, un capteur Canon a un facteur souvent de 1,6 par rapport à un capteur... Disons, si on compare... L'appareil, le Canon 7D, qui est un capteur plus petit, va être...
Qu'on appelle APS-C.
Qu'on appelle APS-C, exactement. Ouais. Si on a un objectif de 50 mm, va donner 80 mm, en fait, quand on le compare à un appareil à plein capteur comme le 5D.
Mm-hmm.
Donc, ça peut... il faut calculer ça, ces choses-là, quand on a des besoins assez précis. Là. Ça peut faire une différence. Donc, ensuite de ça, il y a le viseur. Il y a deux types de viseurs, le viseur optique et le viseur électronique. Donc, le viseur oculaire que tous les DSLR ont finalement permet d'économiser la batterie aussi. C'est un gros avantage parce que souvent, les appareils compacts, ben, c'est un viseur électronique puis on le voit directement à l'écran, mais ça consomme beaucoup plus de batterie. Et puis, un autre avantage d'un viseur optique, en fait, c'est qu'on peut mieux voir dehors au gros soleil hein, quand on est à la lumière du jour. Des fois, dans un écran, on va avoir beaucoup de réflexions, de reflets de soleil, puis on a de la difficulté à voir vraiment l'image qu'on essaie de capter.
L'autre affaire aussi qui est intéressante, c'est que le capteur optique versus le numérique. Le problème de certains numériques, c'est que l'écran se rafraîchit pas assez rapidement,
oui,
ce qui fait un certain décalage ou un délai, etc., que t'as pas avec ton capteur optique.
C'est ça. Ben, y a certains appareils maintenant qui améliorent ça. C'est presque...
Ouais, y a un gros progrès dans ce côté-là, définitivement, mais...
Mais c'est encore là, ça paraît, puis c'est... Moi, je trouve ça agaçant.
Ouais,
même au niveau où on est rendu, là, en 2012.
Je sais pas si tous les capteurs, les viseurs numériques sont tous pleine grandeur. Ce qui est à dire que les capteurs optiques, même sur des DSLR de bon marché, n'est pas pleine grandeur.
Non. Souvent, on va voir ça les
90 ou 95 fois, mais c'est quand même bien. Je veux dire, entendons-nous qu'on manque pas grand-chose. Mais exemple, justement, la 7D, c'était un des premiers qui avait un capteur 100%. Même la 5D Mark II, qui était pourtant un plein capteur, avait même pas 100%.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, ça fait bizarre. Tu te dis, ben ok, ce que je vois dans mon capteur, je le prends au complet, mais...
Dans ton viseur.
Dans ton... Excuse-moi. Dans mon viseur. Je le vois sur ma 5D, même pas au complet, versus qu'est-ce que je vais avoir sur ma photo. C'est ouais. un peu spécial. C'est pas grave, là, mais...
Mais un petit truc pour contourner ce problème-là, souvent, c'est de juste prendre un petit peu plus de recul sur la photo, de prendre un peu plus grand que ce qu'on a vraiment besoin, parce que de toute façon, avec des 15, 18, 20 mégapixels, on est capable de rogner la photo puis d'aller chercher vraiment ce qu'on veut par la suite, même si on en a pris un petit peu plus que ce qu'on avait besoin. Là, c'est un espèce de petit coussin de sécurité, finalement. Là. Donc... Puis c'est ça. Ensuite de ça, je vais expliquer très rapidement, parce qu'on pourrait faire un épisode là-dessus, c'est quoi l'exposition. L'exposition, c'est composé de la valeur ISO, donc les fameux films avant 35 mm qui étaient ISO 100, 200 ou 400. Mais maintenant, on peut aller jusqu'à 25 000 ou 100 quelques mille chez Nikon. Là, c'est vraiment... Ça, c'est la sensibilité à la lumière. Mm-hmm. Et puis, plus le nombre ISO augmente, plus on va être plus le capteur va être sensible à la lumière. Mais le désavantage de ça, c'est qu'il peut y avoir du bruit, du grain dans la photo qu'on appelait auparavant avec les pellicules. Mm-hmm. Donc, à part l'ISO, il y a l'ouverture, le fameux petit F dont on parle, F4, F8, F16, F2.8. Ça, c'est l'ouverture du diaphragme de l'objectif et c'est ce qui va donner la quantité de lumière qui entre dans l'objectif aussi en même temps. Donc, si on a un objectif qui peut ouvrir plus grand, donc F1.8 ou F2.8, on va être capable d'aller chercher plus de lumière, donc on a moins besoin d'augmenter l'ISO. Et puis finalement, il reste la vitesse. Donc, ce qu'on voit souvent, là, 1 sur 125, donc 1 125e de seconde, c'est souvent des fractions de seconde. Ou si il y a vraiment un faible éclairage, on peut tomber en seconde, donc 1 seconde, 2 secondes. Et puis, plus le temps d'exposition est lent, plus la lumière va entrer dans l'objectif et va donner une plus grande exposition. Donc, si on laisse un délai trop long, l'image va être surexposée, donc va être trop claire, on va perdre de l'information dans l'image. Et le contraire est aussi vrai. Si notre délai est trop court, si on met ça à 1 millième de seconde, alors qu'on aurait besoin juste 1/100 ou même 1/60, l'image va être sous-exposée, très sombre, donc on va aussi perdre de l'information. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est difficile d'aller récupérer ça. On pourra évidemment élaborer plus là, dans un autre épisode, mais au moins c'était pour expliquer qu'est-ce qui composait
la base
de l'exposition finalement.
Oh, ouais.
Et d'ailleurs, un des livres que j'avais recommandé, Understanding Exposure, c'est vraiment le livre qui m'avait fait comprendre ce fameux triangle-là. C'est une lecture très recommandée. Pour ceux qui veulent retrouver l'information, c'était dans l'épisode 2. Donc, ensuite de ça, il y a la profondeur de champ justement. La profondeur de champ, bon, c'est déterminé par la focale, le nombre en millimètres là, sur l'objectif, si vous êtes à 50 mm ou à 105 ou peu importe. Il y a aussi l'ouverture et il y a la distance du sujet. Donc, ça donne la région où le ou les sujets vont être au focus. Donc, si vous prenez une toute petite ouverture, ça aussi c'est une autre histoire, l'ouverture est inversement proportionnelle au nombre. Donc, si on vous dit F1.8, c'est très ouvert. En fait, c'est une fraction. Donc, on pourrait penser que c'est 1 sur 1.8, si on veut. Et par rapport à F16, que là, on pourrait dire c'est 1/16, si on veut. Bon, je dis ça vraiment pour vulgariser. Là, ça donne une idée. Donc, si on prend une ouverture de F16, donc l'objectif va être très, très fermé, le diaphragme. Donc, on prend un F16 avec une focale de 50 mm. Puis notre sujet est à 2 mètres, donc environ 6 pieds. Ça va donner une profondeur de champ d'environ 1 mètre. Donc, si le sujet est à 2 mètres, là, la zone au focus va se trouver de 1,60 m à 2,60 m. Je parle normalement pour un appareil, disons, un Canon 7D, pour y aller avec la majorité des gens qui sont ici. Puis si on prend exactement la même focale, donc un objectif 50 mm, disons, mais avec une ouverture de f1.8, très ouvert, donc il laisse entrer beaucoup de lumière, va donner une profondeur de champ de seulement 11 cm sur toujours le même appareil, le Canon 7D. Donc, on voit qu'il y a une énorme différence quand on choisit l'ouverture du diaphragme là, pour la profondeur de champ. Donc, et c'est ce qui permet souvent de donner des arrière-plans flous.
C'est ce qui est recherché. C'est ce qui est recherché. Quand tu fais du portrait ou quand tu fais... En fait, quand quelqu'un décide d'acheter un DSLR, c'est pour aller chercher cet effet-là.
Oui.
Parce que les caméras point and shoot, tu peux juste pas atteindre ça à cause de la grosseur du capteur.
Justement. C'est ça. T'as pas beaucoup de marge de manœuvre avec la fameuse ouverture, le F. Ça peut arriver qu'on peut jouer entre F3.5, F8, mais encore là, c'est difficile d'aller vraiment manipuler les réglages là, de la façon qu'on veut pour obtenir un résultat similaire à celui d'un DSLR.
C'est vraiment le capteur qui fait toute la différence parce que, exemple, le iPhone, sa lentille est le 4, je crois, et F2.8, ce qui est quand même assez impressionnant quand tu regardes ça comme ça, mais la profondeur de champ est nulle sur un téléphone. Il y en a aucune ou à peu près pas. Là.
Ben, sur le iPhone 4S, apparemment que c'est F2 ou F2.2.
Mais c'est toujours ça. Le ratio entre la grandeur du capteur et justement de l'ouverture.
Aussi, c'est ça.
Probablement que le capteur sur un iPhone est beaucoup, beaucoup plus petit que sur un
iPhone. Oui, définitivement.
Selon l'épisode précédent que j'avais dit, si ma mémoire est bonne, là, c'est comme... C'est même pas un quart, je pense. C'est vraiment minuscule là, par rapport à ton autre capteur. C'est rien de comparable.
Mais tu peux arriver, si ton sujet est vraiment proche, à faire un petit effet d'arrière-plan flou, mais il faut que l'arrière-plan soit loin. C'est proportionnel, finalement. Là.
Puis en fait, justement, tantôt, tu parlais du crop factor. Justement, la grosseur du capteur a justement un lien avec ça. Là. Donc, si on prend le iPhone et puis qu'on essaie de calculer la lentille en millimètres qui est sur l'iPhone, on se rend compte que ça n'a pas du tout aucun lien avec les lentilles en millimètres qu'on est habitué de calculer sur nos caméras.
C'est vrai. Absolument. La meilleure façon pour s'habituer à calculer ces trucs-là, les profondeurs de champ, moi, je vous suggère de consulter le site d'OffMaster, donc dofmaster.com, et vous avez un calculateur vraiment de profondeur de champ. Vous dites quel appareil vous utilisez, vous dites quelle ouverture vous voulez utiliser, la focale, tout ça, et puis à quelle distance vous vous trouvez de votre sujet, et puis ça va vous donner la profondeur de champ que normalement votre appareil, votre objectif vont vous donner. Et puis, c'est un outil très, très utile, pas juste pour les débutants, même
c'est ça.
Quand on veut un résultat vraiment précis, là, c'est un outil à utiliser pour...
Je connaissais pas, c'est fantastique.
Moi non plus, puis même, je suis sur le site en ce moment, puis il y a même une application pour iPhone et Android, pas que je suis vraiment surpris.
Ben, merveilleux.
Ça peut être intéressant.
Je vais la télécharger, je ne l'avais pas.
Moi non plus.
Il y en a aussi une pour Palm OS.
Ah bon,
Palm quoi?
pour celui qui utilise encore un Palm.
OK.
Donc, cet épisode-ci, le dernier terme dont je voulais donner la définition, en fait, je vais laisser l'honneur à François, notre caméraman, de définir c'est quoi la balance des blancs ou le white balance.
Ben, la balance des blancs, en fait, c'est sur quoi la caméra va se baser pour établir le reste des couleurs dans l'image. Quand on est en mode automatique, c'est pas compliqué, ça se fait tout seul. Il va trouver une partie blanche dans l'image, il va se fier là-dessus. Si on décide de l'ajouter nous-mêmes, personnellement, manuellement, il y a des caméras qui permettent de faire le setting, le paramétrage du blanc manuellement. Bon, là, j'entrerai pas dans les détails, mais il y a une échelle de degrés Kelvin. Ça, c'est, par exemple, une lumière intérieure qui n'est pas flou compact, mais disons des bonnes vieilles ampoules, c'est environ 3000 degrés Kelvin. Donc, si je veux prendre une photo à l'intérieur, pas en mode automatique, je pourrais choisir la petite ampoule dans mon setting de white balance ou d'y aller manuellement puis de le setter à peu près à 2800 degrés Kelvin, 3000. Ça joue autour de ça. La balance des blancs, c'est ça en gros. C'est de pouvoir donner une valeur soi-même ou de laisser la caméra décider comment ajuster les couleurs sur une photo.
Puis évidemment, il y a, pour ceux qui utilisent ces logiciels-là, les logiciels comme Lightroom et Aperture permettent, surtout si
ça, c'est magnifique.
Oui.
Ça, c'est magnifique parce que si tu te trompes un peu ou que la caméra elle-même a mal analysé parce que tu prends une photo, disons, à l'intérieur puis il y a la lumière extérieure qui rentre, ça mélange un peu la caméra. La lumière extérieure en degrés Kelvin, c'est plus élevé. Donc, on tombe dans les couleurs bleues, dans les couleurs plus froides. Avec le logiciel, on peut aller ajuster ça. Surtout si on shoot en RAW, qui donne beaucoup plus de latitude pour faire des corrections, pas juste en couleur, mais en toutes sortes d'autres niveaux, ben c'est parfait.
Mais surtout pour la balance des blancs, justement, le format RAW permet d'aller vraiment ajuster ça.
Ah oui, oui.
De façon... Sauver, je sais pas combien de photos, oh, ça, oui. Incroyable.
Oui, puis on s'en sert pour donner un look aussi, là, carrément aussi. Aux photos. Là, oh, Instagram, oui. C'est plein de ça.
Ben oui, carrément.
C'est malade comment ils utilisent ça.
Donc, pour le segment suivant, François va faire la distinction entre les différents types d'objectifs.
Oui, parce que on entend souvent parler de grand angle, de téléobjectif, de zoom, de macro, de lentille fixe. Bon, je vais essayer de démystifier ça parce que c'est... En fait, je vais le démystifier en termes de millimètres. Mm-hmm. Comme ça, on va bien pouvoir faire la différence d'un terme, d'un objectif à l'autre, finalement.
Parfait.
OK, si on commence avec les lentilles qu'on voit le plus large possible, ça se trouve à être des fisheye. Fisheye, ça va se trouver à, entre, disons, sur un capteur plein format, 8 mm à 12 mm, disons, quelque chose comme ça. Ça, ça permet vraiment de voir ultra large, ça déforme carrément une photo, mais on peut aller chercher des effets avec ça, assez particuliers. Il faut faire attention aux édifices. Quand on utilise ces lentilles-là, ça déforme l'édifice. C'est pas très joli, à moins que ça soit l'effet recherché.
Ça donne un effet sphérique un peu.
Oui, tout à fait. Ouais. Vraiment, là, si on prend l'horizon avec ça, c'est déformé bien raide.
Mais ça peut donner une touche artistique. Des fois,
oui,
ça peut devenir intéressant.
C'est là pour ça.
C'est ça.
Ouais. Essayez pas de faire du portrait avec ces lentilles-là, ces objectifs-là.
Pas avec votre conjointe, en tout cas.
Oui, boy, non, elle aimerait pas bien ça.
Plein de courbes.
Si on continue dans l'évolution, on s'en va dans les lentilles grand angle. Ces lentilles-là, on va se situer entre, disons, 15 mm, 16 mm jusqu'à 28 mm, quelque chose comme ça. Ça va nous donner une moindre distorsion de ce qu'on veut prendre. Ça va permettre de faire de la belle photo à l'intérieur des maisons aussi, dans des pièces assez petites. Ça distorsionne un tout petit peu, mais faut vraiment le voir. Après ça, on tombe dans des focales, bon, 35, 50 mm. Ça, 50 mm, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que l'œil humain voit dans la vraie vie. Il y a un paquet de photographes qui ont décidé de se coller une lentille 50 mm puis de vivre avec.
OK.
Puis, quand on regarde des livres de photos, des photographes reconnus, souvent, ils utilisent cette lentille-là, cet objectif-là pour faire des portraits. C'est les objectifs de portrait sont souvent des 50 mm, des 80 mm dans ces coins-là. Pourquoi? Parce que c'est ce que l'œil humain voit. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Ensuite, on tombe dans les lentilles zoom. Bon, eux, l'avantage des lentilles zoom, c'est qu'on peut passer de 16, 17 mm à 2, 300, 400. Bon, il y en a toutes les marques, toutes les sortes. Ça donne vraiment une plage pour travailler. C'est des lentilles parfaites pour voyager. Avec ça, tu amènes juste ta lentille, une lentille, puis tu peux faire à peu près tout ce que tu as à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle une zoom.
Mais il y a un compromis quand on fait ça, je pense. Hein? Si tu prends une plage trop étendue, tu peux avoir une espèce de distorsion de l'image, je pense, dans les deux extrêmes.
Bon. Ben, ça dépend de la qualité. Ça dépend de la qualité de ton objectif.
Ouais, c'est
si tu le payes 3 000 $, même si c'est une grande plage, il va bien sortir. Dans ce cas, si on le paye 100 $, ça va être différent.
Oui, tout à fait. Puis
tout comme tu as les ouvertures variables aussi qui peuvent jouer dans ton... Ou ce que comme je disais, la 24-105 a une ouverture fixe de 4. Ce qui est à dire qu'à 24 ou à 105, tu peux avoir le 4. Tandis que, mettons, la 18-135 qu'on parlait, qui a l'air plus intéressante, ben je pense que si je ne me trompe pas, c'est 3.5 à 5.6. Donc, à 18 mm, elle est à 3.5. Puis quand on zoom jusqu'à 135, elle se rendue à 5.6.
Elle se ferme jusqu'à 5.6.
Elle se ferme beaucoup plus. Donc, moins de luminosité.
Oui, c'est le prêt à payer pour justement la payer moins cher.
C'est ça, exactement. Ça revient, c'est moins cher quand ces objectifs-là ont... une ouverture qui varie là,
tout à fait en
cours de route.
Un autre type de lentille, c'est les lentilles macro. Les lentilles macro, ça nous permet de faire de la photographie de très, 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 très près des objets. C'est des lentilles super intéressantes.
Comme on a parlé au dernier épisode aussi, un petit peu, là, j'avais publié des photos sur le site.
Oui, tout à fait. Puis notre invité va nous en parler aussi, parce que lui, il en a patenté une avec une lentille normale. C'est ça qui va être intéressant à écouter, je pense. J'ai pas mal fait le tour des types d'objectifs. Il y a aussi, on pourrait rajouter, là j'ai parlé de zoom, on pourrait parler de téléobjectifs. La différence, c'est que c'est des lentilles, c'est des objectifs fixes. Donc, elle a une valeur précise. Au lieu de faire 16 à 200-300 mm, elle va faire 400 mm, elle va faire 300 mm. C'est des lentilles, c'est des objectifs fixes. De cette façon-là, on peut gagner en luminosité. Il y a moins d'éléments à l'intérieur de l'objectif. Il y a moins de verre. Mm-hmm. Et c'est ce qui fait que la lumière va entrer plus facilement. Okay. Donc, c'est carrément un principe physique, là. Bon, il y a d'autres types d'objectifs qui sont plus avancés. Lens Baby, Tilt Shift. Ça, c'est des lentilles qui vont permettre de défocuser par rapport au capteur.
Le Tilt Shift, j'avais dit le fameux buzzword, là, dans, il y a un épisode ou deux, là, c'est le décentrement à bascule.
Ah oui, c'est ça.
Oh.
C'est pas un terme qu'on utilise
exactement.
Souvent.
Non.
C'est des objectifs très, très recherchés pour ceux qui veulent donner un look différent. Bon, mm-hmm. Instagram utilise cette technique-là par software.
Mais le vrai décentrement à bascule, ça donne des aspects de maquette, hein, souvent, ouais, la photo ouais. qui est prise.
C'est
là.
Ça qui est recherché ouais. souvent avec cet effet-là. Un autre but recherché de ces objectifs-là, c'est de redresser les perspectives. Par exemple, on parlait tantôt de building, mm-hmm. Que ça pouvait déformer, ben avec ces lentilles-là, on peut redresser la ligne de fuite pour pas que ça ait l'air déformé.
C'est ça, un objectif de peut-être un édifice de 3 ou 4 étages va moins s'en aller en rétrécissant vers
c'est
le
ça.
Haut. Là, c'est
ça.
Ça.
Bon.
Mais ça coûte
là,
cher.
Là, ces objectifs-là, oui,
ça coûte extrêmement
c'est jamais en bas de
cher.
2000$ d'habitude.
Ah ouais, j'avais déjà été intéressé par ça, puis quand j'ai vu le prix, j'ai fait jamais de la vie.
Le meilleur truc pour pas que ça coûte trop cher, c'est de trouver un building de l'autre côté de la rue et de monter quelques étages pour le prendre en hauteur.
Ouais, c'est une théorie.
C'est un autre truc. Ça fait pas mal le tour des types d'objectifs qui existent sur le marché.
Bon, parfait. Au moins, ça va démystifier la chose pour bien des auditeurs. Bon, on va maintenant répondre à la question de François Lemire. Sa question, en fait, il me demandait c'était quoi la différence entre un zoom et les millimètres qu'on voit sur un objectif. Donc, pourquoi un zoom 4X ou pourquoi un objectif 70-200 ou qu'est-ce qui fait la distinction entre les deux?
C'est une très bonne question.
Oui, oui. Ben, c'est ça. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe des zooms optiques et des zooms numériques. Et que tout le monde connaît ici les zooms numériques. Et je conseille à qui que ce soit de ne jamais, autant que possible, utiliser un zoom numérique parce que tout ce que ça fait, c'est agrandir l'image qui est prise par l'appareil. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel logiciel par la suite. Là, donc.
Et la dégrader aussi.
Et la dégrader en qualité. Donc, on augmente la taille des pixels plutôt que de vraiment se rapprocher du sujet.
En réalité, on rogne l'image carrément.
Oui, exactement. Mais au niveau de l'appareil, donc c'est mieux de le faire soi-même manuellement dans un logiciel que de laisser l'appareil le faire à notre place. Donc, quand vous arrivez au bout de votre zoom optique, vous arrêtez là et c'est le plus près que vous allez vous rapprocher. Vous ferez le reste sur l'ordinateur par la suite. Ça va donner un meilleur résultat. Donc, c'était mon premier conseil.
Il y a quand même une chose qui est pratique de faire avec un zoom numérique sur une caméra. Mm-hmm. Je m'en suis servi à une couple d'occasions. C'est de s'en servir comme jumelle.
Ah, OK.
Donc, tu prends ta photo. Tu zoomes en masse dedans. Puis, tu peux aller vraiment chercher des détails. Tu sais, si tu n'es pas capable de lire un truc sur un édifice un peu plus loin, t'es pas capable de voir le nom, ben avec le zoom numérique, ça va être un peu flou, mais tu vas être capable de lire.
Okay.
Donc, je m'en suis servi souvent comme jumelle.
Okay.
Tu sais, ou d'aller chercher des détails comme ça. Évidemment, pas pour travailler sur la photo après chez moi, c'était vraiment sur le coup.
Oui, oui, oui. OK.
Ça peut être pratique. Le reste, t'as bien raison. Faites pas ça.
Bon, et finalement, ben, les fameux zooms, que ce soit 2X, 4X, 5X ou 20X, ça donne presque pas d'informations quant à la focale qui va être utilisée ou même à la puissance de l'objectif. Parce qu'on pourrait avoir un zoom 3X avec une focale 17 à 50 mm, puis on pourrait en avoir un 3X avec une 70-200. Là, j'arrondis les chiffres pour donner un exemple. Mais ça reste un zoom 3X, mais la focale est complètement différente. L'objectif 17-50, ben, c'est un angle relativement grand qui va servir surtout à faire bon soit du paysage, des photos de building... Puis l'autre, un 70-200, va vraiment servir en tant que zoom pour prendre des clichés quand on est loin de son sujet ou pour faire des très gros plans. Donc, idéalement, ben, ce qu'il faut faire, c'est convertir en équivalent 35 mm pour connaître la véritable portée de son objectif. Il faut voir les chiffres. Puis ça, normalement, ces chiffres-là vont être donnés. Si vous regardez sur des sites de grande surface là, comme Future Shop, Best Buy et compagnie, la FNAC en France peut-être, les chiffres sont donnés normalement. Si on parle d'un zoom 5X, ils vont vous dire que le capteur, ben, l'objectif en fait de l'appareil va être de 5 à 25 mm, mais une fois converti en 35 mm, ça peut vous donner quelque chose comme 40 à 200. Donc, il faut vraiment faire la conversion pour connaître la véritable portée de votre objectif. Et puis, c'est ça qui va vraiment déterminer. Donc, oui, au départ, ça peut être intéressant si vous achetez un petit objectif point and shoot, de dire « Ah, ben j'ai un zoom 5X ou 10X ou 12X. C'est intéressant, je vais pouvoir rapprocher mon sujet. » Mais il ne faut pas baser son achat là-dessus. Il faut vraiment y aller selon la focale, les millimètres qui sont listés dans les spécifications de l'appareil. Là.
Si vous voulez un autre truc, faites attention parce que ce truc-là n'est pas parfait, mais ça peut arriver à l'occasion. Mm-hmm. Des fois, sur la caméra même, il va être marqué, mettons, exemple, j'en ai une ici, c'est Zoom 30X qui a l'air particulièrement impressionnant.
Oui.
Sauf que c'est 4.2 à 126. Mais c'est marqué sur le devant même de la caméra, où est-ce que l'objectif même. Mm-hmm. Fait que ça peut être intéressant quand même à vérifier.
Oui.
Celui-là n'a pas l'air super impressionnant. Comme je disais, c'est 4.2 à 126. Mais j'en ai vu un autre, par exemple. Olympus en fait une.
Mais encore 30X. Là, 4.2 à 126.
C'est intéressant.
Est-ce que c'est en 35 mm?
Oui.
Non? Oui?
Oui.
Fait que c'est un extrêmement grand angle.
C'est très intéressant. Sauf que si tu fais, quand tu disais que c'est très différent, Olympus en fait un autre 30X qui, celui-là, fait de... C'est 28 à 840.
Eh, monsieur, ça, c'est
fait que c'est quand même relativement assez large, mais c'est un zoom très impressionnant. Là. Ça va très loin. Là.
Oui. Donc, exactement, il ne faut pas se fier au fameux X, à la fameuse valeur de zoom. Il faut vraiment regarder les millimètres, la plage de focale qui est offerte pour déterminer si c'est vraiment l'appareil dont on a besoin ou l'objectif qui va convenir à nos besoins.
Ça peut être un peu compliqué à calculer, par contre, parce que justement, ouais, le chiffre qui est écrit en nombre de millimètres dépend de la grosseur du capteur. Fait, comme tu disais, il faut toujours le ramener en 35 mm. C'est puis pas... là, c'est un calcul un peu compliqué.
Mais la plupart du temps, les sites comme Future Shop, Best Buy et compagnie vont donner l'équivalent 35 mm. Donc, on peut aller se baser là-dessus, aller voir vraiment les caractéristiques de l'appareil et voir le fameux 5 mm à 100 mm qui donne un 20X. En fait, en 35 mm, il va donner d'autres valeurs et c'est sur ces valeurs-là qu'on doit se baser pour vraiment connaître la portée de...
Je pense que c'est un chiffre qui est beaucoup utilisé pour plus du marketing qu'autre chose.
Comme les mégapixels d'ailleurs. Aujourd'hui, il ne faut pas se fier seulement aux mégapixels et maintenant, il ne faut pas se fier non plus aux fameux zooms. On va passer maintenant au sujet de Christian.
Oui, c'est ça. J'ai deux petites caméras qui ont retenu mon attention récemment. Il y a la Nikon 3200. Ça fait déjà je pense quelques semaines qu'elle est sortie.
Une Nikon, là?
Oui, je sais. Je voulais pas rendre le monde mal à l'aise. T'sais. Oui, on sait qu'il y a des Nikon aussi qui existent. Pas parce qu'on a tous des Canon ici, là. Mais bon, c'est la nouvelle entrée de gamme de Nikon qui est assez surprenante quand même, considérant. On parle d'une caméra à 24.2 mégapixels. Pour une entrée de gamme, c'est quand même pas si mal. ISO 12800. Fait qu'encore une fois, assez surprenant. Là, c'est pas si mal. Mm-hmm. Elle a l'autofocus quand on filme. Ce qui d'ailleurs est une nouvelle chose que Canon propose avec celle que je vais parler juste après. C'est la première qu'il y a. Mm-hmm. Non, pour 750$, je trouve que c'est une très bonne caméra entrée de gamme. Franchement, qui en offre quand même pas mal. Là. Faut pas s'attendre à une quantité industrielle de feature
de fonctionnalité.
Exactement. Mais pour quelqu'un qui veut prendre des photos, ça, c'est plus qu'amplement en masse de tout ce que vous voulez faire avec, il n'y aura aucun problème. L'autre, la T4i, c'est le nouveau modèle qui remplace la T3i, qui pourtant est pas si vieille que ça non plus. Je pense qu'elle a un an.
Oui, Canon avait sorti ça au mois d'août l'année dernière, je crois.
Qui était la première à avoir un écran pivotant. Celle-là, ce qu'elle rajoute, c'est un écran pivotant tactile. Ça, par contre, j'avoue que je l'ai vu, j'ai vu une vidéo sur Internet et c'est assez intéressant.
C'est vrai que des caméras tactiles, on n'en a pas vu beaucoup.
C'est la première DSLR qui en a une. Il n'y en a aucune autre que DSLR qui a un écran tactile.
Au moins 5, 6, 7 ans. Il y en a une d'Olympus,
la Olympus EM5, là, je crois.
C'est-tu une DSLR?
Ah ouais, je me souviens pas si on peut changer l'objectif. Hein?
Ouais, c'est ça.
Je revérifierai, mais ouais, pas
en vidéo, ça fait des années là, qu'il y a des écrans tactiles.
Exact. Ouais. Non, c'est ça. Puis en tout cas, bref, c'est vraiment un écran tactile comme un iPhone. C'est relativement assez sensible, il n'y a pas de problème. Je voyais la personne qui se promenait avec, qui changeait les menus, changeait les photos juste en skippant d'un côté puis de l'autre, en poussant ta photo, comme on fait sur un iPhone. Fait que je trouvais que pour ça, c'est quand même pas si mal. Puis considérant que l'écran est pivotant et tout ça, l'intérêt est là.
Wow, c'est fantastique.
Ouais, ouais. On parle d'un capteur à 18 mégapixels. Bon, c'est presque le même qu'il y avait auparavant, mais il semble-t-il que c'est un nouveau parce que lui aussi propose de 100 à 12800, fait qu'ils l'ont amélioré. Il y a le nouveau processeur de Canon aussi qui est dedans, le même processeur que dans leur caméra, la DJI 5, exactement, okay. La 5D Mark III et la 1DX. On parle de 5 images par seconde versus 3.7 pour la T3i. Fait que 5 images par seconde, c'est parce que si on regarde les spécifications de la caméra, de plus en plus, elle commence à empiéter sur la 60D. Mm-hmm. Elle a à peu près toutes les mêmes fonctionnalités que la 60D, qui est quand même 200-300$ de plus. Ça commence à être... on voit que Canon est en train de changer le positionnement de ses caméras, j'ai l'impression.
Oui, absolument.
Les rumeurs disent que la 60D... va avoir un remplaçant qui s'en vient dans pas long, qui va s'appeler la 70D, qui va remplacer la 7D. Puis la 7D deviendrait un caméra plein capteur qui est de bas de gamme.
Okay.
Faut s'entendre, là. Oh, on parle entre 1500 et 2000$.
Dans la logique, la nomenclature des modèles, là, 7D avec un seul chiffre, normalement, elle devrait avoir un plein capteur, vu que la 5D en a un, la 1DX, donc 7D, ça fait plus ou moins.
C'est vrai,
puis
c'est pas vrai parce que la 1DS Mark IV est pas plein capteur.
Ah, bon, c'est bizarre. Mais ils vont peut-être corriger ça aussi éventuellement.
Non, mais la nouvelle, elle l'est maintenant. La 1DX, elle l'est complètement. C'est ça. Puis il y a une nouvelle fonctionnalité, comme je disais, la vidéo, t'as l'autofocus dessus. Mm-hmm. Mais ça fonctionne particulièrement bien. C'est des nouveaux objectifs qui appellent STM ou Stepping Motor Technology.
Oui.
Qui, dans le fond, ça te permet de faire le focus plus délicatement puis plus silencieusement. Ce qui fait que quand tu filmes, t'entends pas le moteur de la caméra tourner.
Mm-hmm.
Fait que ça fait beaucoup moins de bruit.
Mais ça coûte plus cher.
Ben!
Oui, j'ai regardé le prix de le boîtier seul, puis le boîtier avec l'objectif, et la différence est pas mal plus grande qu'un autre boîtier.
C'est possible. Ben, tu vois, moi, le boîtier avec l'objectif, le STM, le 18-135, le même que moi j'ai, que j'avais avec ma 7D, est 1000$.
OK.
Là, avec l'objectif. Avec l'objectif. C'est quand même pas si mal, je trouve. Puis il y a également aussi Canon vont sortir un nouvel objectif prime 40 mm f2.8.
Okay.
Mais celui-là, il y a la particularité qu'il l'appelle le pancake ou crêpe parce qu'il est très 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 mince. On parle de moins qu'un pouce d'épais. Puis lui aussi, il a l'écran, le STM, puis ce qu'il disait, 22 mm en fait précisément. Ce qu'il disait, c'est que j'ai vu quelques critiques. Puis pour le prix, environ 230$ canadiens, la qualité est très, très, très surprenante.
Mm-hmm.
Puis on parle de quelque chose qui est intéressant parce que même ton objectif de 50 mm que tu parlais tout à l'heure, c'est presque la moitié de la hauteur de ça. Fait que transporter ça, ça commence à devenir intéressant. Là, on parle d'à peu près la même longueur qu'entre 40 et 50 mm, bon, pas une énorme différence. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus compact, que tu peux traîner dans ta poche si ça te tente.
C'est à peine si ça dépasse l'espèce de nez de la caméra ou qu'il y a le flash. Là.
Je vais être bien franc, là. C'est pas très beau, par exemple. Ça fait étrange parce que ça ressemble plus aux objectifs que sur une nouvelle caméra 4 tiers, qui sont très, très minces. Fait que plus ta caméra est grosse, quand t'as ça, ça sur fait un peu étrange. Justement. Sur une 7D, là, avec la battery grip, la grosse chose,
la poignée
pour la batterie de plus, là, ça commence à faire petit.
Mm-hmm.
C'est...
En effet.
Mais bon, quand même, je trouve que c'est quelque chose que je vais quand même investiguer parce qu'elle m'intrigue pas mal. Je vais m'en louer une à un moment donné, je pense. J'haïs pas l'idée de... Parce que moi, j'ai plus de 50 000 mètres. J'ai revendu ma 50 000 mètres parce que je l'utilisais pas assez.
OK.
Puis je pense à quelque chose de même, ça m'intéresserait plus. Tu sais, c'est discret, quelque chose qui traîne dans tes poches. Ça m'intéresse. Mm-hmm. Je vais voir, là, mais... Puis la dernière chose que je vais parler, c'est, comme je disais, le micro-logiciel de la 7D. Ils vont sortir une version 2.
Ça, c'est intéressant.
Comme on est trois fans ici, on a chacun la nôtre. Et je suis très impressionné de ce que Canon a fait. Il aurait pu, comme je disais tout à l'heure, de se contenter de sortir une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités, puis tout ça, puis la vendre à un certain... Ben non, ils ont décidé de sortir son nouveau micro-logiciel. Dans les choses que ça fait de plus...
Ça va être gratuit, ça?
Oui.
En plus.
En plus.
Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait?
On passe les... Quand on prend des photos en mode rafale, on a quand même une limite. La caméra, oui, elle en prend 8 à la seconde, sauf qu'on a une limite de 15 total. Après un bout de temps, ben là, le buffer, le tampon se remplit. Puis, il faut attendre qu'il se vide avant de pouvoir continuer. Ils vont passer de 15 à 25. Ce qui est une assez bonne amélioration quand même.
Presque le double.
C'est... Ben, pas tout à fait.
Bon, pas tout à fait.
Pas tout à fait, mais quand même. C'est quand même intéressant. Fonctionnalité que je suis déjà en amour avec, puis j'ai même pas encore, c'est la spécification d'une sensibilité maximum en mode ISO automatique. Ce qui est à dire que si tu mets ton ISO automatique, tu peux lui dire « Je veux jamais que tu me le configures au-dessus de ISO 800. »
Oh, wow.
Mais je pense que j'ai ça sur la 60D.
C'est très possible. C'est très bien, mais nous, on l'a pas. Ouais. Mais la 7D, elle date de quand même plus qu'un an avant la 60D.
Ouais, c'est vrai.
Puis si je me demande, c'est pas loin de deux. Je pense que c'est 2009, je crois, sa sortie de la 7D.
C'est fort possible.
Fait que ça, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. On parle aussi ajustement manuel sur 64 valeurs de la sensibilité du microphone.
Ça, c'est bon pour moi, qui fait beaucoup de vidéos avec la 7D.
Il y a beaucoup de monde qui demandait ça.
Oui.
Effectivement, moi aussi, quand je fais de la vidéo, je suis obligé d'avoir un enregistreur externe, justement, pour avoir le contrôle sur mes niveaux.
Ouais.
Il parlait aussi enregistrement du son avec un échantillonnage de 16 bits 48 kHz. Personnalisation du nom de fichier. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est le genre d'affaires que, tant qu'à l'avoir,
on va l'utiliser.
Exactement. Précision de la zone géographique. Attribution d'une note de 1 à 5 aux photos, au lieu de les faire dans Aperture ou dans Lightroom, on les fait directement dans la caméra. Fait que déjà, tu regardes, tu peux les coter immédiatement.
Non, c'est bien ça, c'est parce que qui le fait après prend ses 200 photos et les passe une par une pour donner une cote.
J'ai commencé à le faire parce que ça me permet de... Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets mes cotes sur mes photos. Je dis, mettons, une photo que j'aime, j'y mets 3. Une photo que j'aime beaucoup, j'y mets 4. Une photo que je sais que je veux, je mets 5.
Ouais.
Puis après ça, je dis, donne-moi juste celles qui sont 3 et plus. Ou celles qui sont 4 et ou celles qui sont 5, ça me permet de
déterminer
réduire.
Ton diaporama.
Puis après, ce que je fais, ben, dans Aperture, tu peux dire, ben, donne-moi toutes celles qui n'ont pas de cote, puis j'ai flush.
Mm-hmm.
Fait que de même, c'est ma façon de travailler. Il y en a qui fonctionnent d'autres façons, moi, c'est la même.
Moi, je fais pareil.
C'est ça.
Ouais, génial.
Puis, redimensionnement, sans cadrage des JPEG en mode lecture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a un nouveau. Un ajout GPS qu'on peut s'acheter maintenant, que tu mets sur ce qu'appelle le hot shoe, au-dessus, l'endroit où on met le flash, qui te permet d'avoir de la géolocalisation, ce qui est à dire que si tu prends une photo, ben, ça te donne toutes les données où est-ce que t'es avec le GPS.
L'altitude.
Exactement. Mm-hmm. Ça va permettre de l'utiliser là-dessus. Puis il parle aussi accélération de la navigation dans les images zoomées en mode lecture. En tout cas, tu sais, ils ont quand même travaillé pas mal, j'ai l'impression, sur leur affaire. Puis tout ça, ben, ça va être comme disait, ça va être gratuit, puis il devrait être disponible en nous. Fait que dans à peu près deux.
Youpi!
Oui, j'ai très hâte. très hâte.
Hey, moi, j'avais une question sur. Tantôt, tu parlais des objectifs STM, les stepper motor.
Ouais.
Tout à l'heure, tu parlais des stepper motor technology. Je me demandais, dans le fond, c'est des nouvelles lentilles qui vont contenir des moteurs stepper à l'intérieur. Est-ce qu'ils vont être compatibles avec les anciennes caméras comme la 7D ou c'est une nouvelle gamme de lentilles qui Canon sort qui sont pas rétrocompatibles?
Ils sont rétrocompatibles à ce que j'ai cru voir. Honnêtement, moi ce que je lisais, parce qu'il y a deux sortes de moteurs, t'as les USM puis t'as ça, puis je lisais que la différence réelle entre les deux est pas très grande. L'USM est déjà relativement assez silencieux, fonctionnel. C'est comme une façon... J'aime pas utiliser le mot, mais une façon cheap de faire un modèle USM de bas de gamme. Fait okay.
Okay.
Dans
ça
le fond,
va coûter moins cher qu'un USM.
Ouais. Okay. Ouais, non, ça coûte moins cher qu'un USM.
Okay.
Fait que c'est pour remplacer un peu. En tout cas, encore une fois, c'est ce que j'ai lu cet après-midi quand j'ai lu.
Moi, tout à l'heure, quand je parlais de plus cher, je parlais plus cher
par rapport à celui qui l'a pas du tout.
Ordinaire, c'est ça qui n'est pas USM.
Oh, oui.
Là,
tout à fait raison.
Oui, oui. Ça fait du sens. OK.
On verra bien. De toute façon, pour le moment, à ce que je sache, il y en a juste deux, le 40 mm et le 1835.
Mm-hmm.
Savoir s'il va en avoir d'autres plus tard, j'imagine. Là, je regardais la quantité d'objectifs que Canon est censé sortir cette année. Dans les deux prochaines années, c'est incroyable.
Mais déjà, pour un appareil d'entrée de gamme, avoir un objectif 1835, tu couvres la majorité des besoins des gens, là, pour ceux qui commencent en photo de toute
façon. Moi, je dirais que cet objectif-là est très commode.
Mm-hmm.
Son principal défaut que moi j'ai trouvé, c'est juste qu'il n'est pas très... il est lent. Fait que j'espère que la deuxième version, avec justement le moteur STM, a amélioré ça. Il est pas très vite à faire son focus. Et l'autre problème majeur, c'est qu'il est pas très... je cherche le mot sharp. Pas très...
Il n'y a pas de piqué dans la photo.
Il manque de détails. Je trouve que les images sont un peu... Je veux pas utiliser le mot flou, mais...
Ouais.
Si je le compare, moi j'avais loué à un moment donné, c'est ça, ma 2405 qui pourtant a une plage moins grande, puis je l'ai loué pour un shoot photo, puis c'est cette fois-là j'ai fait non, moi je retourne pas avec l'autre.
Mm-hmm.
No, y en est pas question, la différence est trop grande. J'ai vraiment là, je l'ai vu énormément parce que dans le même shoot photo j'ai utilisé les deux. Mm-hmm. Et j'ai fait non, vraiment là c'est pas comparable.
Mais c'est quand même réputé, dans le fond, que les lentilles, plus ils ont une longue plage, moins ils ont la qualité, elle en prend un coup. Là, le fait que c'est très polyvalent.
En fait, c'est qu'il y a une zone dans cette plage-là qu'il faut aller chercher ta photo pour avoir des résultats optimums, comme l'ouverture, la même affaire.
L'idéal, moi, je dirais, c'est le tiers central, si on veut. Tu essaies d'éviter le premier tiers et le dernier tiers, en tout cas.
C'est probablement ça.
Peut-être propre à chacun aussi, mais
d'après... Ça dépend bien gros des lentilles, je dirais.
Ouais, probablement.
Des objectifs, je devrais plutôt dire. Mais non, parce que je te dirais que, tu sais, comme celle-là, que je la mette à ouverture, la 24-105, que je la mette à ouverture 4 ou que je la mette à 22, le centre, là, il est clair. Là. C'est incroyable. Je suis agréablement surpris. Ça a été tellement le meilleur achat que j'utilise aucune autre lentille qu'elle.
OK.
Je n'ai trois autres, là, puis c'est très rare que j'utilise le reste.
Ben, une lentille de bonne qualité, ça paraît.
Oui, je suis d'accord. Ça vaut la peine des fois de payer quelques dollars de plus pour avoir quelque chose qui a de l'allure, puis de se ramasser avec... Tu sais, comme je disais, l'avantage avec celle-là, c'est qu'avec le stabilisateur d'image, avec quand même une ouverture à 4 fixe, je sens pas l'utilité de traîner rien d'autre.
Mm-hmm.
Je suis quand même... Tu sais, j'ai pris des photos avec ma 2.8 qui a une plus grande ouverture, puis pourtant... L'autre me donnait quand même l'équivalent à cause de son stabilisateur d'image. Mm-hmm. Fait que, question de goût, comme on dit.
Question de goût et de besoin.
Exact.
Aussi. Et de budget, parfois.
Surtout, oui, beaucoup de budget dans ce cas-là.
Un stabilisateur versus de la luminosité, c'est quand même similaire dans les prix.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est un choix personnel, ça.
Aussi, oui.
Tout à fait. Si tu peux avoir les deux, c'est encore mieux.
Oui, ça, c'est clair.
Bon, excellent. Donc, toi, François, de ton côté, tu vas nous parler de...
Je vous parle de deux sites où on peut apprendre quelques trucs pour hacker sa caméra. Bon, hacker, là, tu sais, c'est un terme qui est tellement populaire aujourd'hui. On va dire que c'est pour donner des petits trucs pour rendre ça plus facile.
Pour bidouiller.
Bidouiller, patenter ses caméras. Fait que je vais vous parler du premier site qui s'appelle hackaday.com. Sur ce site-là, on trouve une couple de trucs pour améliorer son expérience avec sa caméra. Ça part du débutant à l'avancé. Là. Je vous avertis, il y a des affaires qui sont assez pétées. Par exemple, il y a des gars qui ont réussi à patenter une manette, pas une manette, mais un Nintendo DS comme déclencheur pour sa caméra.
Okay.
Ils font des interfaces électroniques plutôt. Puis, ils servent du Nintendo DS pour déclencher. Puis là, ça part, ça va faire... Tu fais du time-lapse avec ça, tu fais n'importe quoi. Même le focus, ils peuvent le contrôler. T'sais.
OK.
C'est un site qui a... c'est un how-to. Tu sais, comme site, c'est un... Il te montre comment le faire.
Mm-hmm.
Bon, il faut que tu aies certaines notions, évidemment, en électronique pour certains projets, comme celui-là, que je trouve complètement pété. d'autres qui sont plus simples à faire. Comme par exemple, il y a un gars qui cherchait à se faire un éclairage bas de gamme, pas cher. Il est allé chercher des bandes de lumière LED, tu sais, des DEL, des lumières DEL. Ça se vend en bandes dans un détaillant électronique près de chez vous. Addison, Madison, ici. Et puis avec ça, ben, il se fait une espèce de boîte métallique qui réfléchit la lumière, puis ça y fait une lumière continue où il peut servir de ça pour faire sa lumière. Bon, encore une fois, on apprend comment le faire sur ce set-là. Aussi, un truc qui est assez populaire en vidéo, ça s'appelle un slider. Ça, depuis un an ou deux, c'est une espèce de bande d'à peu près un mètre de long. On installe sa caméra là-dessus, puis on la fait glisser.
Okay.
Puis ça, c'est pour imiter le mouvement d'un dolly au cinéma. C'est-à-dire les mouvements là, qui se passent de gauche à droite, bien lentement, la plupart du temps. La caméra se déplace de gauche à droite, puis ça donne un effet cinéma. Le slider, ça s'applique bien aux DSLR qui font de la vidéo, parce que tu as à peu près, je sais pas, un mètre de distance, tu peux avoir un effet assez impressionnant quand tu as des avant-plans qui se promènent devant l'image. Fait que c'est... Il y a quelqu'un qui montre comment bâtir un. Il y en a plein de ça sur le web, comment faire son slider. Un autre exemple, tu as des vieilles lentilles. Bon, dans le Canon, il y a des anciens formats de lentilles qui ne font plus maintenant sur les DSLR, qu'on peut trouver sur eBay, qu'on peut trouver un petit peu partout. Le format, un format qui ne coûte pas cher à trouver en ce moment, c'est FD. Pour Canon, malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur direct pour fitter ça, parce que ça... ça donne pas une belle image. Ben, y a un gars qui a patenté ses vieilles lentilles FD, il les a modifiées pour les fitter. Fait que si on a ça dans son grenier, ou son grand-père a ça dans son grenier, ben, on peut aller les chercher,
ben oui.
Patenter, puis faire des beaux objectifs pas chers. Puis juste pour vous donner un exemple, le gars, il fait ça avec de l'époxy, un tournevis, puis un petit adaptateur qui se trouve sur eBay pour sûrement 10$.
T'sais. Un peu de colle, un tournevis. Puis
ouais,
okay,
ben, un adaptateur M42.
M42.
AEF. Le EF, c'est le comment je pourrais dire, c'est la braquette qu'on sert pour les caméras Canon d'aujourd'hui.
Le connecteur.
Le connecteur.
Ouais, okay.
Point d'attache.
Un point d'attache. Oh. Ouais.
Ça, ce premier site-là, c'est vraiment une communauté de gens là, qui se relancent. Il y a vraiment des ingénieurs, des patenteux là-dedans. Puis on voit souvent les mêmes noms revenir. C'est un peu comme un blog que tout le monde participe.
Mm-hmm.
Deuxième site, ça a l'air d'être plutôt géré par une personne. Ça s'appelle Sugru.com. S-U-G-R-U.com.
Que Rémi semble connaître.
Ah, OK. Puis, c'est encore dans la même veine. C'est le genre de petit truc qu'on peut faire pour améliorer sa vie. Et encore une fois, c'est une section photographie qui nous intéresse pour cette émission-là. Mais ça touche un peu de tout. Les voitures, n'importe quoi qu'on peut bidouiller.
Mm-hmm.
Puis, bon, sur ce site-là, ce que j'ai remarqué qu'il y avait comme truc intéressant... si on, une caméra, on peut... Des fois, on a de la misère à la tenir comme il faut. Ben, il donne des trucs pour avoir une meilleure grippe sur la caméra. C'est des petits caoutchoucs qu'on installe du côté gauche ou droit de la caméra, puis ça nous permet de mieux la tenir.
Okay.
Ça arrive souvent avec des point and shoot. Une petite bande de caoutchouc, le doigt s'agrippe bien dessus,
mm-hmm.
C'est réglé. Aussi, il y a des... Encore sur ces petites caméras-là, il y a des pitons qui sont assez petits, des boutons qui sont difficiles d'accès. Ben, il donne des trucs comme à les grossir, à ajouter okay. des trucs dessus. Ça peut être plus facile à manipuler à ce moment-là. Comment se faire sa propre macro? Bon, je pense que Rémi, tantôt, il va nous en parler. Il y a un truc, lui, justement. Mm-hmm. Sur le site que je parle, il y en a un aussi. Comment réduire les vibrations? Si on se promène, on marche en prenant des photos, ça peut shaker. Si la lumière est trop basse...
Ouais, ça devient flou. L'image ouais, c'est ça.
Bon. Il y a un truc, il y a quelqu'un qui a réussi à utiliser des gyroscopes.
Okay.
Avec une espèce de harnais pour mettre sa caméra dessus, puis ça réduit les vibrations. J'ai remarqué ça, j'ai trouvé ça assez pété. Tu sais, la plupart du temps, ces projets-là, c'est pas beau, là. C'est toutes des affaires.
Oh, c'est fait maison avec ce qu'on trouve.
Il n'y a aucun souci esthétique.
Ouais,
mais
ouais,
côté
ouais.
pratique, nous autres, les gars, c'est tout ce que ça nous prend. Ta blonde, elle va pas aimer ça, mais toi, tu vas trouver que ça marche. Même réparer un objectif. Si tu trouves avoir un objectif qui est qui a un petit bris dessus ou quelque chose comme ça, ben il y a une section aussi pour ça. Puis l'autre chose que j'ai trouvé bien pratique, c'est un monopode. Souvent, c'est quelque chose qui est pratique d'avoir avec une caméra. Ben à ce moment-là, j'ai vu un gars qui a pris une canne pour marcher, là, puis il a fait un monopode avec ça.
Ah oui,
carrément.
Okay.
Fait que c'est vraiment un petit site là, très très bien pour ça. Rémi?
Ben, il y a un autre site web dans la même veine, mais qui est vraiment spécialisé en photo, c'est doityourselfphotography.net.
Okay.
D-I-Y photography en anglais avec un qui finit par un Y.net.
Okay.
C'est vraiment un site qui est vraiment spécialisé là-dedans. Il y a plein de trucs sur comment justement faire des formes avec le flou d'arrière-plan. Il y a plein de techniques là, vraiment simples là, pour faire tout plein de choses, là, je veux dire, avec des caméras photo, des SLR, des dolly comme il expliquait tantôt, mais pour faire du time-lapse là, qui se promet à des vitesses très, 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 très lentes pour prendre, mettons, une photo en rafale à toutes les heures ou pour justement avoir du mouvement, là, mais très, très lent. Il y a plein de choses. C'est super intéressant. Allez faire votre tour sur doityourselfphotography.net, D-I-Y photography.net.
Super. On va le mettre dans les notes.
Bon, c'est ça, j'avais fini.
On va demander à Rémi de nous présenter justement, ben là, on le voit pas évidemment pendant l'épisode, mais on va mettre des photos sur le blog là, des petits bidules qu'il a apporté. T'as apporté justement une lentille macro à objectif inversé, ton petit gadget Arduino.
Le petit Arduino, dans le fond, ouais. Ce qui m'a inspiré à faire ça, en fait, c'est... Ben, premièrement, j'avais vu des photos sur Internet de gens qui prenaient des photos, mettons, de balles de fusil ou des gouttes d'eau là, qui éclatent dans l'eau, des choses comme ça, qui étaient bien colorées. Puis des photos pile au bon moment, ça m'a toujours inspiré, dans le fond. Puis ce qui m'a vraiment convaincu, à un moment donné, j'ai vu un gars qui se pétait une ballonne d'eau juste au-dessus de la tête, puis la photo, c'était vraiment... C'est vraiment extraordinaire. Là. C'était la ballonne d'eau qui explosait sur la tête, mais pile au bon moment. Et puis, je me suis dit que, justement, vu que je m'y connais en électronique, je suis sûrement capable de faire un device qui déclenche...
Un bidule qui déclenche mes
flashs au bon moment. Et puis, j'ai trouvé par la suite qu'il y avait des gens sur Internet qui avaient déjà fait des choses similaires, que c'était facile avec des Arduino. Ça donnait que j'en avais chez nous, des Arduino.
Ça traîne moi aussi dans mon atelier.
Ouais, oui, c'est ça.
Mais tout le monde juste a ça pour à la ceux qui ne savent pas c'est quoi un Arduino, c'est quoi exactement?
Ah, c'est un microcontrôleur, en fait. C'est un petit ordinateur qui est plugué directement sur des pins d'entrée-sortie. Puis, dans le fond, on peut servir de ces entrées-sorties-là, dans le fond, pour déclencher un petit peu n'importe quoi qu'on veut en électronique. C'est sûr, ça prend un petit peu de connaissances en électronique, mais c'est quand même relativement simple. Et puis, il y a beaucoup d'exemples sur Internet de comment utiliser ça. Surtout que la communauté de Arduino est très, très grande. Il y a plein d'exemples sur comment ça fonctionne. Juste à chercher un petit peu sur la net et on trouve vraiment n'importe quoi. Donc, je suis parti du Arduino. J'ai trouvé des exemples sur Internet de comment déclencher des flashs à partir d'un Arduino avec un petit optocoupleur, des petites choses comme ça. Et puis, dans le fond, à partir d'un micro, on capte le son que déclenche un événement spontané. Comme par exemple, on veut prendre une photo d'une coupe de vin qu'on éclate avec un marteau. Okay. Eh bien, on a juste à prendre un microphone puis déclencher nos flashs quand il y a un pic audio, dans le fond, là, quand il y a un pulse instantané. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est justement, on fait une longue exposition avec la caméra. On commence par mettons, une exposition de 5 secondes, puis on est dans le noir complètement. Donc, il y a juste un flash qui se déclenche. C'est pas la caméra qui se déclenche au complet, pile au bon moment, parce que la caméra est lente à répondre. Si on veut, par exemple, prendre une photo d'une balle de fusil, le temps que le miroir ouvre puis que la photo se déclenche, balle est déjà partie.
Il est déjà content,
même à haute vitesse, même à faire des 10 images par seconde, t'as peu de chances de l'avoir.
Ouais, exactement. Tu l'auras juste pas du tout. Là. Tandis que le flash, il se passe, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique, le temps que ça se rend au flash, puis après ça, c'est la vitesse de la lumière. Là. Donc, le délai est très, très court pour déclencher un flash au bon moment, tandis que la caméra, c'est plus long. C'est pour ça qu'on fait une longue exposition, puis qu'on déclenche les flashs pile au bon moment.
OK. C'est bien, c'est intéressant.
Ton ouverture par rapport à tout ça, c'est quoi? Faut-tu la mettre le plus gros possible?
Ben, en fait, on s'ajuste pour faire la photo comme s'il y aurait le flash. Là. Fait on peut se préparer, on fait tous nos settings, nos paramètres manuellement avec la caméra, comme si on faisait la photo avec un flash normalement. C'est juste qu'on s'arrange pour faire une longue exposition, ce qui fait que quand le flash y allume, c'est la seule lumière qui éclaire notre source. Et puis, ça permet de prendre la photo le pile au bon moment, éclairé juste par un flash. La durée d'un flash, c'est environ 1/1200 de seconde. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très, très, très rapide. Puis, ça permet de geler l'action.
Moi, ce que je trouve épatant, c'est avec le son. T'sais. C'est ça qui va déclencher.
Ouais.
Moi, je trouve ça vraiment trippant.
Ben oui. C'est un parfait déclencheur, finalement.
Ouais, ben ouais.
C'est, tu veux justement un truc qui est fracassé, ben c'est au moment où ça se fracasse que ça déclenche le flash. Ouais. C'est génial.
Il y a plein d'autres gens qui le font avec plein d'autres types de senseurs, avec des lasers, par exemple, comme quand quelque chose traverse à un endroit précis, donc ça permet de prendre des photos. Encore une fois, c'est d'autres techniques pour prendre des photos pile au bon moment, soit avec des lasers, avec n'importe quel type de capteur, ça fonctionne. En fait, c'est juste de relier le capteur au Arduino, puis ensuite de ça, on fait un petit peu de programmation, puis on dit au Arduino de déclencher le flash quand qu'on veut. Là. Puis il faut même, ça va tellement rapidement qu'il faut ajouter des délais supplémentaires parce que j'avais fait une photo récemment, je lançais des framboises dans un verre d'eau et puis si je mettais pas le délai, la photo se déclenchait au moment pile que la framboise touchait à la surface de l'eau, puis il y avait même pas de splash. Donc fallait que je ralentisse d'environ 10 millisecondes juste pour laisser le temps de la framboise de rentrer dans l'eau puis les gouttes de commencer
à remonter.
Ah, c'est incroyable.
Exactement.
Ah, c'est super intéressant. Parfait. Puis c'est ça ton autre bidule là. J'ai vu, t'as deux objectifs que t'as modifiés pour.
Ouais, ben en fait, ben celui-là c'est un ami qui l'a modifié.
Okay.
Ben premièrement, peut-être que je devrais introduire c'est quoi de la macro photographie à objectif inversé.
On va expliquer ouais la macro photographie.
Même de
Là ce qu'on a c'est une 50 mm à ouverture de 1.8.
Ouais, l'objectif typique là, de le 50 mm qu'on trouve.
On a déjà parlé que ça devait faire partie du kit de base d'un photographe.
Ouais.
Parce qu'elle coûte pas cher.
C'est pas juste qu'elle coûte pas cher, c'est la moins chère que tu peux acheter.
C'est
même.
Ça. Autour de quoi, 130$, quelque chose comme ça.
Ouais, okay. Effectivement. Ben justement, dans le fond, la macro, je suppose que les gens savent déjà c'est quoi de la macrophotographie.
Ben, on va faire un petit rappel.
Un petit rappel, c'est de la photographie, dans le fond, de l'ordre du millimètre. Il y a de la microphotographie, ce serait de la photographie de l'ordre du micromètre, donc du microscope. On parle de macrophotographie, donc de l'ordre du millimètre, donc des insectes, des choses comme ça qui sont petites, mais à l'échelle millimétrique.
Mm-hmm.
Dans le fond, pour faire de la macrophotographie, habituellement, on a besoin de lentilles qui sont assez dispendieuses, qui peuvent coûter facilement 1000$, qui permettent de faire des focus très près, qui permettent, dans le fond, de zoomer correctement sur une fourmi ou sur n'importe quoi qu'on veut qui est très petit.
Mm-hmm.
C'est quand même dispendieux, c'est pas à la portée de tout le monde pour faire des photos comme ça, mais il y a une technique, dans le fond, qui consiste à utiliser des lentilles à l'envers sur les caméras. Il y a plein de techniques de le faire. Il y a des gens qui le font en tenant la lentille eux-mêmes dans les mains directement. Il y en a d'autres qui achètent des espèces d'adapteurs qui se vissent sur où est-ce qu'on met les filtres habituellement.
Des tubes.
Il y a des tubes aussi. Mm-hmm. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est plutôt de la technique, dans le fond, avec la lentille inversée. En fait, c'est vraiment simple. Ça consiste, on enlève la lentille de l'appareil, on la met directement à l'envers sur la caméra, et puis en approchant de notre sujet, on vient à trouver notre focus directement. Ça permet de faire des photos là, vraiment qui vraiment de zoomer bien.
Mm-hmm.
Par contre, ça fonctionne un petit peu à l'envers des lentilles habituelles. Là. C'est-à-dire, si habituellement, par exemple, si on a une lentille de 200 mm, ça va être très zoomé. Si on a une lentille de 15 mm, ça va être très large. Mais quand on met la lentille à l'envers sur l'appareil, c'est complètement l'inverse.
Okay.
C'est-à-dire, plus que la lentille est zoomée, moins que ça va être zoomé dans la vraie vie. Là. Je veux dire, si on a une 200 mm puis qu'on la met à l'envers, on sera pas beaucoup zoomé dans l'objet qu'on veut aller photographier. Tandis que si on prend un 15 mm, ça va être très, très, très près. Même si on prend dans le fond, plus que notre lentille est large, plus ça va être près. Là. Si on prend une 11 mm, par exemple, là, on va vraiment aller voir l'œil d'une mouche ou l'œil d'une fourmi. Là,
okay.
Je suis curieux de savoir, je sais que tu avais une lentille 8 mm. As-tu déjà testé la macro?
Je ne l'ai pas testé avec la 8 mm. Elle est décédée entre-temps.
Ouais,
j'ai pas eu le temps de tester avec celle-là. J'ai essayé avec une 11 mm par contre, okay. Puis c'est vraiment là, c'est même trop près là, qu'on comprend plus ce qu'on voit. Là.
Ok,
fait que...
Mais une question technique justement, quand tu utilises un verre grand angle comme ça, puis tu le mets à l'envers pour faire de la macro, tu trouves à utiliser juste une petite partie du verre, fait que la qualité photographique, est-ce qu'elle est touchée à cause de ça? C'est un petit peu moins de qualité, la photo? Ou...
Non, la qualité est vraiment la même qu'une photo habituelle. Par contre, il y a un problème à cette technique-là sur la qualité des photos, c'est que, en fait, la profondeur de champ est très, 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 très mince.
Mm-hmm.
Donc, la qualité de la photo est bonne, mais c'est très difficile d'avoir une large plage qui est au focus. Entre autres, surtout parce que quand la lentille est à l'envers, ce qui arrive, c'est que l'ouverture de la lentille est au maximum qu'elle peut aller. Donc, si on a une lentille, par exemple, 2.8 ou 1.8, quand on la détache, elle est prise à 1.8. Mm-hmm. Donc, puis à 1.8, la profondeur de champ est très, très, très mince, ce qui fait que la tranche au focus, par exemple, si on prend une fourmi, je veux dire, il y a juste l'œil qui va être au focus, ses pattes seront pas au focus, ses antennes seront pas au focus. Donc, c'est très difficile d'aller chercher de la profondeur de champ versus une vraie lentille macro qui, mm-hmm. elle, un contrôle numérique de son ouverture, ce qui fait qu'on est capable d'aller chercher des...
Ouais, il faut quand même qu'il y ait des contraintes, là, tu sais. Quand t'as un truc pas cher, ben... Ouais.
Certains, mais il y a des manières de s'en tirer. Par exemple, si on prend la lentille, et puis on peut régler notre appareil à, par exemple, à F8, parce qu'on veut faire une photo à F8, comme ça on va aller gagner sur la profondeur de champ. Un coup que notre appareil est réglé, il y a un bouton qui s'appelle Depth of Field Preview sur la caméra.
Oui, donc c'est pour voir, prévisualiser la profondeur de champ, finalement.
Exactement, c'est pour visualiser la profondeur de champ par l'œilleton de la caméra. Mm-hmm. Donc, si on pèse sur ce bouton-là, et puis pendant qu'on le tient enfoncé, on détache la lentille de l'appareil, la lentille reste prise à l'ouverture qu'on y a mis.
OK.
Donc, on peut avoir la lentille qui est dans nos mains, mais qui est prise à F8, par exemple. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, si on met la lentille à l'envers sur la caméra, on peut prendre la photo avec une profondeur de champ qui est beaucoup plus large, dont dans le fond, la plage au focus est beaucoup, beaucoup plus large. Puis ça permet d'aller chercher, par exemple, la tête au complet de la fourmi. Par contre, il y a un autre problème, c'est que vu que la profondeur de champ, vu que l'ouverture a été fermée, mm-hmm. ce qui arrive, c'est qu'il n'y a presque plus de lumière quand on regarde à travers notre œilleton.
Ben c'est plus sombre.
C'est ça. Beaucoup plus sombre parce que justement, l'ouverture est prise fermée.
Ouais.
Donc, la manière de s'en tirer encore là, c'est de mettre beaucoup de lumière, de lumière dans la pièce. Là,
lampe de poche ou une affaire comme ça.
Lampe de poche. Puis faire peur à la fourmi.
Faire peur à la fourmi, mais oui. Donc, il y a plein de solutions pour s'en tirer quand même. Ce que j'ai amené justement en lien avec ça, c'est une lentille qui a été modifiée. C'est une 50 mm 1.8. Et puis, cette lentille-là a été démontée et le connecteur pour l'attacher à la caméra a été soudé à l'envers sur la lentille.
Okay.
Donc, on peut fixer la lentille complètement sur la caméra. Et puis, l'ouverture automatique continue à fonctionner. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé, d'appuyer sur le bouton pour voir la prévisualisation de la profondeur de champ. Ça fonctionne. Donc, on peut, par exemple, se mettre à F10, F22, si on veut, prendre notre photo et puis, comme c'est le cas dans toutes les lentilles habituellement, l'iris va se fermer pour prendre la photo qui va être exposée correctement quand on va le vouloir au bon moment.
OK. Parfait.
Oh, vraiment cool. C'est un truc que je connaissais même pas, ça. Tourner la lentille à l'envers, non?
J'en avais entendu parler, mais c'est le premier que je vois.
Moi, c'est la première fois que j'apprends ça, puis c'est vraiment cool.
C'est ça, on n'a pas besoin de rien acheter, je veux dire. On a juste à prendre notre lentille, on la met à l'envers, et puis c'est tout. On peut s'acheter, si on n'est pas à l'aise à la tenir dans nos mains, il y a des petits adaptateurs qui se vendent sur eBay, là, c'est environ 3$, là, on commande ça, puis ça s'attache justement sur où est-ce qu'on met les fils. On met ça à l'envers sur la caméra, puis la lentille, elle tient. C'est un petit peu fragile, je veux dire, là, les fois que j'ai essayé ça, je tenais quand même ma lentille, là, je brassais pas ma caméra de trop, parce que c'était un peu dangereux que la lentille tombe, mais...
Surtout qu'en plus, quand elle tombe, ben, t'es direct où ce que ton capteur est, toutes tes affaires, là, c'est que, ouais, mettons que c'est pas...
Ouais, tu veux pas que ça tombe. Mais tu sais, pour 3$, justement, on est capable de faire des belles photos macro plutôt que d'aller acheter une lentille à 1000$. Là. Et puis, j'ai comparé, j'ai des amis qui ont des lentilles à 1000$ pour faire de la macro. Et puis, je veux dire, on arrive sensiblement au même résultat.
Es-tu sérieux? Ah ouais,
j'en doute même pas.
C'est surtout sur la profondeur de champ, la différence, qui est un peu dur à atteindre avec la technique de la lentille à l'envers. Ça prend beaucoup, beaucoup de lumière pour réussir à voir qu'est-ce qu'on fait. Mm-hmm. Tandis qu'avec la vraie lentille macro à 1000$, on voit toujours ce qu'on fait parce que, l'ouverture est...
Mais ton autre lentille modifiée, tu ne dois pas avoir ce problème-là, par contre? Ou...
Non, avec celle-là, il n'y a pas ce problème-là. Le problème, c'est que c'est une 50 mm, donc c'est pas très zoomé.
Non.
Si on parle d'une lentille, par exemple, je pense que c'est la 60 mm Canon, là, celle qui est seulement macro, elle zoome moins que, par exemple, une 11 mm à l'envers, mais côté profondeur de champ, elle va chercher un petit peu plus large, permet de faire des photos des fois qui sont plus claires, mais avec l'autre technique, on va aller chercher des photos qui sont plus zoomées, mais peut-être un peu plus floues autour.
OK. Bon.
Vraiment.
On en apprend des choses à tous les jours.
Qu'est-ce que je m'en vais faire chez moi en essayant?
Il va démonter sa 50 mm.
Non, je la démonte pas. Je la tourne de bord.
Il y a plein d'idées qu'on peut avoir. Là, on peut prendre des photos de des petits caractères sur un 10$ ou des petits caractères sur un sou ou des pièces d'électronique ou
des fleurs.
Ouais, moi, j'avais fait les photos de fraises avec le petit objectif photo Jojo pour iPhone. Ouais, là, au dernier épisode, j'avais posté ça sur ceux qui veulent voir ça sur le blog. Là, j'ai quelques photos ou une pièce d'un jeu d'échecs qui est vraiment juste une portion au focus, là, vraiment proche. Puis tout le reste est complètement flou, là, mais c'est vraiment juste en faisant de la macro, là, t'as la portion de la tête du roi du jeu d'échecs, là, c'est... c'était petit objectif à 20$.
Ah, c'était impressionnant tout ce qu'on peut aller chercher. Puis quand on commence à chercher, ah, qu'est-ce qui serait beau en macro, on trouve plein d'affaires.
Ouais, ouais. Non, c'est un autre univers à découvrir complètement.
Ouais.
Bon, mais super.
Surtout quand on a les moyens.
Aussi. Ouais, ouais. Mais les moins chers que j'ai vus, les objectifs macro pour le Canon, à tout le moins, parce que c'est l'appareil que j'ai, là, j'ai vu, c'était autour de 700 à 800$, là.
Puis ça zoome pas beaucoup à ce prix-là. C'est un zoom de je pense, 2x. Ça doit être deux fois la grandeur du capteur en plein écran.
Mm-hmm.
C'est vraiment pas tant que ça. Versus une lentille à l'envers, là, c'est tout le monde, la 18-55 là, de Canon de base, là, je veux dire, ça zoome beaucoup là, si on la met à l'envers. Là, okay. À 18 mm, là, on est capable d'aller chercher n'importe quoi. Là.
Mais ben. À essayer, ceux qui sont assez braves pour le faire.
Ouais, ce qui est bien, c'est que la plupart des gens peuvent l'essayer maintenant. Là. Tu n'as même pas besoin d'aller t'acheter quelque chose.
Non, non, c'est vrai. En le tenant dans sa main, finalement. Il faut pas trop bouger. Bon, alors, merci Rémi pour ta présence.
Ça fait plaisir.
Et où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets?
J'ai un photoblog sur Tumblr, rémisaintonge.tumblr.com. C'est mon photoblog. Vous pouvez me laisser des commentaires si jamais ça vous intéresse ou quoi que ce soit. Je mets un petit peu de n'importe quoi, donc c'est ça.
Parfait. Est-ce que tu es sur Twitter ou Google Plus?
Non.
Ou... Non?
Rien.
Facebook. Ah, un autre.
Sur Facebook.
Google quoi?
Google quoi, ouais.
Non, mais il y a beaucoup de photographes sur Google Plus.
Il y a énormément de photographes. Puis pour les photos, Google Plus est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que Facebook.
Oh, oui, absolument. Donc, encore une fois, merci de ta présence.
Ben, c'était un plaisir, c'était bien agréable.
Merci, messieurs. Ça a été très agréable, justement.
Yes. Tout à fait, comme d'habitude.
Donc, à la prochaine.
À la prochaine.